Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Eh ben bonjour aux auditeurs de Galère, vous êtes bien en 2014, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, et c'est la dixième du genre. Alors aujourd'hui, toujours avec Mathieu, à l'approche de l'été, nous allons consacrer la totalité de l'émission à ce qu'on appelle les grands projets inutiles et imposés. Bon alors Mathieu, on rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par grands projets inutiles et imposés ?
Eh ben écoute Hervé, avec plaisir, en tout cas je vais essayer. Alors, partout sur la planète, des infrastructures et des méga-projets industriels, tels que des autoroutes, des aéroports, des incinérateurs, des pipelines, des grands stades, sont imposés et construits pour satisfaire les intérêts de quelques-uns au détriment des véritables besoins de la majorité d'entre nous. Les grandes banques, les multinationales et quelques hommes politiques tirent profit de milliards d'euros gaspillés au détriment d'investissements utiles pour la population, tout en sacrifiant l'environnement et l'avenir des territoires et des populations concernées. C'est cela, les grands projets inutiles.
Tu veux peut-être parler du projet d'aéroport porté par notre ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault à Notre-Dame-des-Landes qui va condamner 2000 hectares de terres agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle.
Eh bien, c'est exactement de ça que je veux parler. Et nous allons tout de suite débuter avec cet exemple emblématique en première partie d'émission. Et il en est d'autres au niveau local que nous pourrons aussi évoquer dans la deuxième partie. Mais avant de revenir, sur l'expression même de grands projets inutiles. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle en est son origine, Hervé ?
Eh bien, l'expression grands travaux inutiles est popularisée par un journaliste belge d'investigation qui s'appelait Jean-Claude De Fossé dans un programme diffusé sur la RTBF à partir de 1986 et puis après dans un bouquin qu'il a fait qui s'appelle Le Petit Guide des Grands Travaux Inutiles qui a été publié aussi chez RTBF Édition en 1990. Alors cette expression qui désigne de grands chantiers n'ayant jamais été terminés, n'ayant pas atteint leurs objectifs ou dont l'utilité est contestée, a continué ensuite à être utilisée en Belgique. Alors ces travaux inutiles ont ensuite été revisités par le journaliste Samy Osni pour l'émission On n'est pas des pigeons, toujours sur la RTBF.
Et on peut ajouter qu'avec la publication en France en juillet 2013 d'un petit livre noir des grands projets inutiles, la notion s'est étendue à des projets qui ne concernaient pas uniquement le domaine des travaux publics et des infrastructures ou des réalisations achevées. On parle alors de grands projets inutiles, les GPI, c'est un acronyme, voire grands projets inutiles et imposés qu'on nomme GP2I. Ce qui impose une décision prise par le pouvoir politique en relation avec une technostructure, mais sans consultation démocratique des citoyens, bien sûr.
Bon, on va maintenant donc revenir sur ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet qui date déjà du siècle passé. Ce projet d'aéroport pourrait bien devenir un de ces conflits emblématiques qui polarisent l'espace politique et qui marquent toute une génération. Ce conflit pourrait bien devenir un marqueur politique, car cette détermination citoyenne se heurte à l'intransigeance des promoteurs du projet et aux petits arrangements entre amis. Alors ce projet d'aéroport est porté et supporté main dans la main par des collectivités locales, généralement dirigées par le PS, Jean-Marc Ayrault à Nantes, Jacques Auxiette de la région Pays de Loire, et par les gouvernements, d'abord celui de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui celui de François Hollande. On va risquer un peu de psychanalyse politique, l'aéroport est celui d'un homme qui veut laisser sa trace dans l'histoire, une pathologie politique bien connue qui puise sa source dans un imaginaire dépassé. Un imaginaire qui fait de l'édification d'infrastructures gigantesques, irréfléchies, la base du mal développement économique et de la grandeur du mal politique.
Et oui, imaginez, il y a plus de 40 ans, ce projet du passé est donc dépassé. Il est inutile puisque Nantes possède déjà un aéroport international qui est non saturé. Rétrograde et à contre-courant également du progrès puisqu'il parie sur la croissance du transport aérien et le développement des vols low cost aux pratiques sociales désastreuses alors que la France et l'Europe devraient diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre je crois par 4 d'ici à 2050. Glouton de milliers d'hectares de terres arables et de centaines de millions d'euros publics, ce projet d'aéroport n'a vraiment rien pour lui.
Alors l'écologie, la nature, les ressources naturelles sont perçues comme des leviers de croissance, Ce seraient des opportunités économiques et financières et qui ne doivent donc pas bloquer des projets d'infrastructure tels que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. S'appuyant sur une idéologie productiviste et croissantiste, incapable de penser le caractère fini de la planète, une telle approche se satisfait d'un peu de label vert ou ce qu'on appelle la haute qualité environnementale, HQE, d'ailleurs promis pour cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour verdir un peu un capitalisme néolibéral et prédateur auquel on préfère ne pas s'attaquer.
Face à ces logiques qui veulent faire de la nature un capital à gérer de manière efficace et profitable, on a besoin d'engagement et d'actes fermes et sans faux fuyants. Car obtenir l'abandon de ce projet d'aéroport changera la donne et ouvrira une brèche pour s'engager vers d'autres modes de production, d'autres modes de consommation, d'autres modes de transport. À nous de construire l'alternative. Alors, où en est-on sur ces fronts de lutte? Car il s'agit bien de fronts.
Eh bien, nous avons tenu sur trois fronts, et d'abord celui de ce qu'on appelle la zone. Après le séisme de l'automne 2012 et l'opération César, nous avons préservé collectivement le territoire de la ZAD, hein, la zone à défendre, des paysans résistants depuis longtemps installés, des habitants récents, des citoyens soutiens très présents. La vie ainsi a pu continuer, des projets agricoles pérennes ont pris forme grâce donc à la ZAD, grâce à ce qu'on appelle Copain, sur la ferme de Bellevue, sur les terres menacées. Des travaux variés... sur le terrain, notamment avec les naturalistes en lutte, ont encore enrichi l'expertise collective et mis sérieusement à mal les propositions de compensation par Ago Vinci. Des liens se sont noués, la ZAD est maintenant plus peuplée, mieux cultivée au printemps 2014 qu'elle ne l'a jamais été. Et la manifestation du 22 février dernier a montré l'énormité du soutien, tant paysan que populaire, pour la défense de ce territoire menacé. La mobilisation éclair pour Saint-Jean-du-Tertre a sauvé la ferme et donne des garanties pour l'avenir.
Nous avons aussi tenu sur le front du juridique. Après la décision de garder ouvertes les pétitions par la commission des pétitions à Bruxelles en septembre 2013, et malgré la volonté des porteurs du projet de vider à nouveau la ZAD, les arrêtés autorisant le début des travaux ont tardé jusqu'à fin décembre 2013. Peut-être le préfet avait-il conscience de leur fragilité juridique, justement. Ils ont été immédiatement attaqués, tandis que les diverses procédures concernant les expropriations, appel en tribunal administratif, conseil d'État et cassation, se poursuivent opiniâtrement. Nous venons d'apprendre le lancement par la Commission européenne d'une procédure d'infraction contre la France pour cause de fractionnement du dossier et d'insuffisance d'études d'impact environnemental global.
Et puis, nous avons enfin tenu sur un troisième front, c'est-à-dire le front politique. Si les porteurs régionaux, que sont le Conseil régional, le Conseil général, Nantes Métropole, n'ont pas été ébranlés sur leur base, les instances politiques nationales ne peuvent plus ignorer ce dossier. Un accord politique capital a été arraché au Parti socialiste au prix d'une grève de la faim de 28 jours en mai 2012. Il stipulait qu'il ne pouvait y avoir d'expulsion tant que certains n'étaient pas menés à leur terme. Faute peut-être d'autre choix, Jean-Marc Ayrault, encore Premier ministre, a acté en février que le début des travaux attendrait le rendu de tous les recours déposés. Cette position a été confirmée par les accords de deuxième tour entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts lors des élections municipales de mars à Nantes et à Rennes. Enfin, elle a été reprise par Ségolène Royal, nouveau ministre de l'Environnement. La volonté politique affichée de respecter le déroulement des procédures juridiques en cours est un premier pas. Nous attendons donc fermement, sereinement, en ne lâchant rien sur le terrain, que tous les recours, et notamment ceux concernant la loi sur l'eau et l'autorisation de destruction d'espèces protégées, soient apurés au niveau national et européen.
Le prochain grand rassemblement national contre le projet d'aéroport aura lieu à Notre-Dame-des-Landes les samedis 5 et dimanche 6 juillet 2014. Il s'agira de faire la démonstration que nous restons plus que jamais déterminés et massivement mobilisés, avec une motivation sans faille contre ce projet totalement inutile et contre tous les grands projets inutiles imposés, contre le saccage et l'accaparement des terres agricoles et de la biodiversité, contre un modèle de société imposé qui ne nous convient pas et qui nous conduit tout droit dans le mur.
Et parallèlement à la mise en œuvre de ce grand rassemblement, nous envisageons d'organiser une convergence la plus large possible vers Notre-Dame-des-Landes, avec des caravanes à pied, à vélo, en tracteur, en voiture, qui partiront des principaux sites de lutte où se trouvent des grands projets inutiles et imposés, et qui convergeront vers Notre-Dame-des-Landes en organisant sur le parcours des rencontres d'information, des rassemblements, des meetings dans les villes et des campagnes, pour arriver au moment du rassemblement final.
Mais c'est l'abandon pur et simple du projet qu'il nous faut obtenir. Cet abandon confortera la détermination et l'espoir de tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre les grands projets inutiles et imposés, dévoreurs de terres, de biodiversité, de ressources aquatiques ou fossiles, de subventions publiques. En 2012, nous avons dit « la lutte, c'est maintenant ». En 2013, nous disions « toujours présent, toujours résistant, plus légitime que jamais, enterrons le projet ». Eh bien, en 2014, osons dire, l'abandon, c'est maintenant. Maintenant qu'il faut l'arracher. La victoire définitive est à la portée de nos efforts. Alors, tous à Notre-Dame-des-Landes, les 5 et 6 juillet 2014.
Bon, on va maintenant écouter une chanson écrite par Alain Leprest et interprétée par Jehan. Alors, ce sera un hommage au cours de cette émission à Alain Leprest que nous ferons tout au cours donc de l'émission avec trois de ses chansons par différents interprètes. Quelques mots sur Alain Leprest qui a volontairement choisi de tirer sa révérence en août 2011 à Entraigues, là où vivait Jean Ferrat. Y chantait l'enfance, l'amour, les gens simples. Claude Nougaro disait de lui avec l'accent « C'est bien simple, je considère Alain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que j'ai entendus au ciel de la chanson française. » Il a écrit près de 1000 chansons et celle qu'on vous offre s'appelle « Ton cul est rond » chantée par Jehan.
Cul est rond comme une horloge et quand ma fatigue s'y loge, j'enfile le temps à rebours. Je mate l'heure sous ta jupe, il est minuit moins 2 minutes. Je suis encore à la bourre. Promis, demain j'arriverai pile pour faufiler ma grande aiguille sous le cadran de ton bidule. On s'enverra jusqu'au clocher. Mon cœur comme un balancier ondulera sous ta pendule. Dis-moi au chrono de terrain quand passera le prochain train, combien coûtera le trajet. J'ai tant couru contre ta montre. Voici qu'à l'heure de la rencontre, je me sens des doigts d'horloge. Time is money, puis ta sœur. Si on t'avait demandé l'heure, on saurait que le temps, c'est de l'amour. Ton cul est rond comme une horloge et quand ma fatigue s'y loge, j'enfile le temps à rebours.
Eh bien, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre émission La Gueule Ouverte, qui est ce mois-ci consacrée, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, à ce qu'on appelle les grands projets inutiles et imposés. Avec Mathieu, nous avons tenté dans la première partie de l'émission de définir ce que sont ces grands projets inutiles et imposés, d'illustrer nos propos avec l'exemple emblématique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes du côté de Nantes. Et dans cette deuxième partie, nous allons évoquer avec vous d'autres exemples, mais au niveau local, cette fois-ci au niveau de notre belle région PACA.
Oui, mais avant de démarrer, Hervé, comme nous allons parler évidemment du stade Vélodrome et des terrasses du port, il me semble important de devancer des remarques qui pourraient être exprimées par certains auditeurs. À savoir qu'il ne s'agit en aucune façon ici de faire de la morale, de distribuer des points de bonne ou de mauvaise conduite, ou de condamner les comportements des uns et des autres. Comme on le dit souvent avec toi Hervé, hein, il n'y a pas de mal à essayer de s'élever un petit peu. Donc de quoi s'agit-il ici ? Eh bien, simplement, modestement même, et peut-être un peu naïvement, je le concède, de vous donner des informations afin que chacun d'entre vous soit en mesure de se responsabiliser, c'est-à-dire de comprendre de quoi il participe lorsqu'il agit dans sa vie quotidienne, que ce soit en tant que consommateur, en tant que citoyen, travailleur et même en tant que parent. La perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas ? Mais je reste confiant dans la capacité de chacun à évoluer, à être le moins salaud possible et donc à essayer d'adopter, à son niveau et dans la mesure de ses moyens, des comportements plus justes, plus respectueux de soi et des autres, plus raisonnables, plus soutenables, plus coopératifs et finalement plus conviviales. En un mot, des comportements plus intelligents.
Effectivement, Mathieu, c'est important de rappeler que nous ne sommes pas là pour juger, mais pour informer. Alors revenons maintenant à nos grands projets inutiles et imposés. Et commençons avec le projet de ligne à très haute tension haute durance dans les Hautes-Alpes. Un projet de rénovation du réseau aérien porté par RTE avec le soutien du Conseil Général et qui mobilise contre lui nombre de citoyens qui veulent préserver ces magnifiques paysages des Hautes-Alpes et proposent d'enfouir les lignes. Selon l'association Avenir Haute Durance, le projet va détruire près d'une centaine d'hectares de forêt empiétés sur plus d'une vingtaine de captages d'eau potable. Les visiteurs qui entreront au parc des Écrins, que ce soit à Valouise ou à Châteauroux-les-Alpes, seront accueillis par des pylônes de 45 mètres de haut et la déforestation engendrée par ces lignes si ce projet aboutissait.
Alors maintenant, du côté des Alpes-Maritimes, on peut parler de la construction par Vinci du stade de foot Allianz Riviera dans le cadre du projet Écovallée Plaine du Var, un projet apparemment d'intérêt national. L'Écovallée, de quoi s'agit-il ? Eh bien de l'aménagement, du bétonnage de la seule et unique plaine de Nice. Le maire, Christian Estrosi, veut y créer une Silicone Valley verte. Ses opposants y voient un Notre-Dame-des-Landes miniature. Le grand stade Allianz Riviera, dessiné par le célèbre architecte Jean-Michel Villemotte, est maintenant sorti de terre. Et les supporters en colère dénoncent un stade ne correspondant à aucun de leurs désirs, pas plus que de ceux du club d'ailleurs, que ce soit pour l'agencement des tribunes ou les locaux. En effet, avec 30 000 m² dédiés au commerce, c'est un stade avant tout commercial. Et surtout, si l'OGC Nice devait redescendre en Ligue 2, le club n'arriverait jamais à le remplir et ce seraient les contribuables niçois qui paieraient la facture.
Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, nous avons au moins deux grands projets inutiles. Alors le stade Vélodrome et les terrasses du port. Pour le stade Vélodrome, un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion municipale est sorti et il est plutôt sévère. Il l'est particulièrement sur le projet d'agrandissement du stade Vélodrome, au sujet duquel la Chambre tacle en série. Le choix du partenariat public-privé, la faiblesse des recettes espérées, le loyer dérisoire demandé à l'OM... Le rapport définitif sur la gestion de la ville dénonce un risque avéré de gouffre financier avec le nouveau stade Vélodrome. Le football professionnel est devenu un tel business qu'on peut parler d'une véritable industrie. Alors une question se pose, est-ce qu'on doit continuer à la financer aux frais des contribuables, avec des subventions directes ou des achats de prestations qui abondent les budgets de fonctionnement ?
Et concernant les terrasses du port, de quoi parle-t-on ? Eh bien d'un sanctuaire, d'un temple du shopping. Un complexe commercial de 61 000 m² sur 4 niveaux, érigé à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un toit terrasse panoramique offrant 260 mètres de vue sur la rade. Il doit, soi-disant, contribuer à animer un quartier en recomposition, partie intégrante d'un projet là encore d'intérêt national, le projet Euro-Méditerranée. Et bien évidemment, ce projet bénéficie d'une injection massive de fonds privés et publics à hauteur de 7 milliards d'euros d'ici à 2020 tout de même. À Attaque, nous pensons que la question de l'utilité sociale d'un tel projet est posée.
On va du côté d'Arles maintenant, où nous avons un magnifique projet inutile, à savoir le contournement autoroutier d'Arles sur 134 hectares de prairies. Le tracé traverse les zones suivantes, à l'est du Rhône, la Crau, la Camargue orientale et à l'ouest du Rhône, la Grande Camargue. La Camargue et la Creuse sont des régions naturelles remarquables qui font partie du patrimoine de notre région et font l'objet de plusieurs régimes de protection à l'échelon national, européen et international. Et ce projet menace ce patrimoine. Il doit être dénoncé et abandonné.
À Cadarache aussi se trouve un fumeux projet inutile et imposé, le projet ITER. Alors il s'agit d'un projet expérimental sur la fusion, actuellement en cours de construction. Cette installation de recherche tentera de recréer pendant quelques minutes la réaction du soleil. Le but des études ? Déterminer s'il serait possible, un jour, de maîtriser cette réaction pour produire de l'électricité. Il se heurte à des difficultés techniques majeures et ses chances de succès sont quasiment nulles. Il ne produira pas d'électricité, coûtera plus de 16 milliards d'euros d'argent public et engendrera des déchets radioactifs dangereux et de graves risques pour l'environnement. Alors que les moyens manquent aujourd'hui pour financer les vraies alternatives aux centrales actuelles, ITER coûtera plus de 16 milliards d'euros pour un projet illusoire.
Et maintenant, allons nous promener dans le Var avec la ligne Grande Vitesse PACA ou LGV PACA. Il me semble que ce grand projet inutile est pour le moment reporté puisqu'il est actuellement sous étude et que plusieurs tracés sont possibles. Une partie du projet pourrait d'ailleurs être abandonnée. Quoi qu'il en soit, les opposants au projet considèrent que la LGV ne constitue pas une opportunité pour le Var. En effet, une ligne nouvelle telle qu'elle est aujourd'hui proposée, et quel que soit le tracé qui pourrait être choisi, ne répond pas aux attentes des Varois. Ainsi, pour exemple, les temps de trajet annoncés ne tiennent pas compte des délais d'acheminement entre les gares, situées en pleine campagne, et les principales villes, destination des voyageurs. La ligne nouvelle ne pourrait en aucun cas servir au transport de fret, qui est indispensable au désengorgement des voies routières. Elle sera payée à 90% par les contribuables de la région PACA et à 10% par Réseau Ferré de France. Bien au contraire, elle représente une calamité potentielle pour les espaces naturels du département, qui compte parmi les plus riches de France, pour un grand nombre de propriétaires fonciers, immobiliers comme agricoles, qui risquent de se retrouver expropriés.
Et également dans le Var, un sujet qui ne fait pour l'instant pas grand bruit, et pour cause, il serait installé dans une zone militaire peu accessible au grand public. Mais petit à petit, les langues se délient et des voix s'élèvent. Il s'agit du centre d'essai pour l'offshore en mer Méditerranée. Le collectif Non aux hydrocarbures en mer s'interroge à juste titre sur ce projet inutile, hormis pour l'industrie pétrolière offshore évidemment. Le projet consiste à implanter une base sur l'île du Levant, visant à tester et maîtriser les méthodes de forage pétrolier en profondeur extrême, avec deux plateformes d'accueil à moins 1300 et moins 2400 mètres. La compagnie maritime d'expertise, la COMEX, spécialiste de l'offshore pétrolier depuis 40 ans, en a rêvé. Le pôle de compétitivité Merpaca l'a fait. Et c'est la société Abyssi qui a été chargée du projet, financée à hauteur de 5 millions d'euros par le Fonds unique interministériel et le Fonds européen de développement régional, impliquant des actionnaires privés ainsi que la Caisse des dépôts.
Est-il question d'un projet d'étude ou d'une transition rapide vers l'extraction opérationnelle d'hydrocarbures par les groupes pétroliers embusqués derrière l'ancien permis Rhône maritime ? Ce projet de centre d'essai et d'expertise en mer profonde, en création dans le périmètre du parc national de Porquerolles et à proximité du sanctuaire Pélagos, sera chargé d'accueillir les engins et les équipements sous-marins nationaux et internationaux pour des tests et des démonstrations en grandeur réelle. Il semble évident que ce projet met en grand danger la faune pélagique exceptionnelle, les baleines, cachalots, dauphins, tortues marines, du parc national de Porquerolles et du sanctuaire Pélagos, qui est classé R spécialement protégé d'importance méditerranéenne, et particulièrement les cétacés qui localisent leur proie par émission d'ondes spéciales et qui risquent d'être perturbés par les simulations acoustiques, ainsi que tous ceux qui fréquentent les grands fonds dans leur course migratoire et dont certains sont déjà en danger critique d'extinction.
Alors une étude d'impact serait déjà en cours de réalisation. Nous sommes impatients de connaître les résultats de l'impact environnemental d'un projet à de telles profondeurs. Les intentions des pétroliers et de l'État s'affichent donc au grand jour. Il est impératif de mettre une fois de plus en œuvre l'ingénierie citoyenne des collectifs du littoral pour évaluer le risque potentiel d'un accident majeur qui pèserait sur l'environnement maritime et littoral de notre façade méditerranéenne, sans oublier l'évaluation de l'impact économique. Les marées noires, qui ne sont plus considérées comme une fatalité, doivent impérativement être évitées.
Puis on va terminer ce petit tour des grands projets inutiles avec le projet de zone d'aménagement différé, ZAD, dans le Vaucluse, à Avignon. Il s'agit du projet de construction de la liaison Est-Ouest, LEO, au milieu de la ceinture verte, c'est-à-dire au milieu de la zone d'agriculture périurbaine qui borde la ville. Quatre voies qui devaient faire la jonction entre les autoroutes A7 en direction de Marseille et A9 vers Barcelone. Je dis « devait » car les tranches 2 et 3 de la LEO sont officiellement reportées après 2030. Classée désormais seconde priorité, la LEO se fera-t-elle un jour ? C'est un véritable serpent de mer, on en parle depuis plus de 30 ans. Le projet est en tout cas loin d'être abandonné par ses défenseurs. Du côté des élus vauclusiens, c'est pratiquement l'union sacrée sur le sujet. Évoquant une infrastructure indispensable, les élus expliquent que la LEO est le complément indispensable de deux projets structurants, le tramway et la plateforme de fret trimodale de Courtine-sur-le-Rhône.
Et du côté des opposants, des associations locales, comme l'association de défense de la Ceinture Verte et le collectif Avignon Sud, mettent en garde contre la création de cette voie express depuis de nombreuses années. Composée pour une grande part d'agriculteurs qui s'opposaient voici 20 ans déjà au passage du TGV sur ces mêmes terres, l'association de défense de la Ceinture Verte dénonce le double gâchis que constituerait la LEO. Un gâchis d'argent public pour un projet qui ne réglera pas, selon eux, il ne fera que la déplacer, la question de la circulation à Avignon, et un gâchis de terres agricoles de très bonne qualité.
Ben voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On espère vraiment que cette émission consacrée aux grands projets inutiles à imposer vous permettra d'élaborer une réflexion sur les investissements, sur les choix économiques. Ces grands projets inutiles remettent en perspective l'utilité sociale. Ils permettent de mieux comprendre la manière dont s'organisent les sociétés à partir du primat du capital. Ce qui a été démasqué, c'est la dictature du pouvoir financier et la démocratie de basse intensité qui en résulte. Les grands projets inutiles et imposés sont une des possibilités d'utiliser les capitaux disponibles du fait des profits de plus en plus importants. L'investissement est justifié par la marchandisation, qui est supposée résumer l'usage, sans prendre en considération l'utilité sociale ou les conséquences économiques et environnementales. Les grands projets se suffisent à eux-mêmes et leurs justifications sont d'abord financières. Bon, allez, on va se détendre un peu, les neurones, on va s'écouter un morceau. Toujours une chanson d'Alain Leprest, mais elle est chantée cette fois-ci par Flo. Ça s'appelle « Le point de mon pote » et il y en a qui le méritent.
Il a pété des vitrines, saigné contre des latrines, émietté des murs de briques, mis des bleus à l'Atlantique. Il s'est dressé jusqu'en haut de son unique drapeau. Oh, 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 il a porté des menottes, le poing de mon pote. Il a joué à la pétanque, cassé des billets. Banque, broyer du vent et de l'air, des canettes à Jupiler. Il a tâté des gâchettes, il est mort, il est en miettes. Oh, 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 comme qui dirait en compote, le poing de mon pote. Il est gros comme son cerveau, rigole pas parce qu'il est beau, son cerveau et ses chagrins. Il a caressé les reins des gentilles et des salopes, le poing de mon pote. C'est une main coupée en deux, c'est une paume clouée par Dieu, c'est un poing qui s'interroge sur ici, sur le Cambodge, sur le prénom de ses doigts et sur tout ce qu'on leur doit. Oh, oh, oh. Sur le pape et ses capotes, le poing de mon pote. À force d'empoigner des braises, de chercher l'or de ses rêves, il est dur comme du caillou, mais si pur, un poing c'est tout. Quand il s'ouvre pour quelqu'un, je connais pas de plus belle main. Oh, 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 il redevient une menotte, le poing de mon pote.
Alors on arrive maintenant à la dernière partie de votre émission La Gueule Ouverte avec l'agenda d'Attaque Marseille en juin. Alors Hervé, qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci ?
Alors justement, on organise dimanche 15 juin une déambulation au parc François Billou dans le 15e arrondissement. On fait ça en commun avec la coopérative Hôtel du Nord qui propose des balades dans les quartiers nord de Marseille.
Est-ce que tu peux un peu nous donner le menu ?
Alors oui, le parc Billou, c'est un grand parc où se trouve d'ailleurs la mairie des 15-16. Il y a plein d'espaces différents dans ce parc. Un théâtre de plein air, une rivière, des pelouses, des arbres, des boulodromes, des jeux d'eau pour les enfants et les adultes, des pelouses pour faire la sieste et la fête.
Alors ça va se passer comment, dis-moi ?
Alors, le rendez-vous, c'est à 10h devant la plaque François Billoux à l'entrée principale du parc, rue du Lion. On peut se garer sur place ou alors on peut venir en bus depuis Bougainville ou depuis La Viste. Bien sûr, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous, sans inscription. On peut aussi arriver en cours de route si on veut, partir en cours de route. Alors, il y aura du théâtre autour du thème du travail et de la fin du travail. Il y aura des discussions avec des associations et des acteurs du quartier. Et puis, un moment romantique au bord du ruisseau des Égalades et une lecture surprise. Et puis enfin, sur les pelouses, à partir de 12h30, un apéro poético-musical où chacun pourra déclamer, chanter ce qu'il a envie. Et puis un pique-nique arrosé. Et si le cœur y est, ben un petit balletti improvisé. C'est pas mal, non ?
Ah, c'est mieux que pas mal. Et je compte bien y être avec Adèle, que vous avez entendu lors de la dernière émission, hein, qui avait fait un petit scandale. Alors, vous avez bien compris, dimanche 15 juin, au Parc Billoux, à 10h. On arrête là ?
Non, il y a aussi une réunion d'information sur le pacte transatlantique, dénommé aussi TAFTA. Donc, c'est une réunion organisée par le collectif TAFTA Marseille, dont fait partie ATTAC. Et ça se passe le mardi 2 juillet à 18h30, au local d'ATTAC, 29 boulevard Longchamp, dans le 1er arrondissement. C'est au métro réformé ou à l'arrêt de tramway national. Bon, on peut aussi venir en vélo, il y a une piste cyclable.
Et là, c'est fini pour l'agenda ?
Bah oui, on arrête là pour ce mois-ci.
Alors attends un petit peu, parce qu'avant de conclure, j'ai une petite annonce à faire à la demande de quelques adhérents d'ATTAC et qui s'adresse tout particulièrement aux auditeurs qui ont des enfants scolarisés dans le primaire. Alors à vos stylos, car si vous recherchez une école qui accompagne et valorise plus qu'elle ne sanctionne, une école qui respecte les rythmes de l'enfant dans ses apprentissages, qui stimule sa curiosité naturelle et son envie d'apprendre, eh bien l'école élémentaire Fresne et Bonne 22 est faite pour vous. Il s'agit d'une école bienveillante, gratuite, laïque et publique, où chacun est reconnu, entendu et respecté. Elle est située au 52 boulevard du Sablier, dans le 8e arrondissement. Les inscriptions se font en mairie, au 38 rue Fauchier, jusqu'au 15 août, sur demande de dérogation pour motif pédagogique. Si vous aviez besoin d'aide pour l'inscription ou de renseignements complémentaires sur la pédagogie Fresnay, je vous communique immédiatement une adresse internet, le www.fresnaymarseille8.com, et un numéro de téléphone, le 06 24 28 46 78. Je répète le numéro de téléphone, 06 24 28 46 78. Alors n'hésitez pas à prendre contact et inscrivez-vous nombreux.
Bon, en attendant de s'inscrire, on va vous faire écouter une chanson. Toujours une chanson d'Alain Leprest, mais interprétée par Olivia Ruiz. Ça s'appelle « La Dame du Dixième ».
La dame du dessus est morte, il y a des scellés sur sa porte. On n'entendra plus pleuvoir son arrosoir sur le balcon. La vie, c'est con. La dame du dessus, bonjour. Trois petits riens, trois petits tours. On descend ses pots de fleurs par l'ascenseur et sa pendule. La vie, c'est nul. La dame du dessus, bonsoir. Sa braille, sa rit dans le square. Sa boîte à lettres s'emplit, tant mieux, tant pis, c'est des factures, la vie est dure. La dame du dessus, c'est cuit, les enfants sont passés lundi, en vitesse, en habit noir, vider l'armoire, prendre le chien, la vie, c'est rien. Les jours se suivent, c'est terrible. Y a un bel appartement libre. Là-haut, au 10e étage, un pigeon nage dans l'eau du ciel. La vie est belle. Et
pour finir en beauté, voici, mon cher Hervé, notre traditionnelle devinette. Alors tiens-toi bien, qui a dit, deux points, ouvrez les guillemets. J'ai mis en place une commission du dialogue, elle a rendu son rapport et rappelé la pertinence du projet. Elle a aussi demandé des études complémentaires, elles doivent être menées en toute transparence.
Ah ben alors là, pas de doute Mathieu, je reconnais bien là les valeurs de notre sénateur-maire UMP, triomphalement réélu aux dernières élections municipales, Jean-Claude Gaudin. Pas de doute en effet qu'après l'ouverture début 2014 d'une enquête préliminaire pour des soupçons de favoritisme visant un des satellites de la ville, JC ait voulu faire toute la lumière sur cette sombre affaire. D'après une enquête du journal local Le Ravi, les magistrats financiers se sont étonnés de la générosité de la société d'économie mixte Marseille Aménagement, bras armé immobilier de la ville, envers une famille d'entrepreneurs marseillais. Les faits se déroulent à la Caplette, un ancien quartier ouvrier de l'Est de Marseille où le départ des industries a laissé des friches béantes. En 2003, Marseille Aménagement rachète sur ses zones d'aménagement concertées un terrain pour y construire un palais de la glisse. Le terrain est squatté par Laser Propreté, une société de nettoyage industriel appartenant à la famille Lazeri, dont la convention d'occupation est pourtant résiliée depuis 1998. Jackpot, fin 2004, Marseille Aménagement indemnise Laser Propreté à hauteur de 2 millions d'euros, alors que le bail prévoyait une indemnité maximale de 193 000 euros et même seulement 153 000 euros selon l'évaluation du service des domaines. Alors c'est ça Mathieu, c'est JC ?
Eh bien non, mon cher Hervé, pas du tout. Il s'agit en fait de notre regretté premier sinistre et ancien maire de Nantes, le mal nommé Monsieur Jean-Marc Ayrault. Ses propos furent recueillis par l'AFP le 14 septembre 2013. Notre triste héros du mauvais film qui se déroule à Notre-Dame-des-Landes s'exprimait à propos du projet d'aéroport enlisé depuis un an. La rhétorique n'est-elle pas risible, mon Hervé ? Commission du dialogue, pertinence du projet, études complémentaires, transparence, ha ha ! Ah, je me marre, chers auditeurs. Alors même que nos gouvernants tentent d'organiser la consécration de la supériorité du droit des multinationales à dégager davantage de profits sur le devoir des États à protéger leur population. Je vous parle bien sûr, vous l'aurez compris, du grand marché transatlantique, le GMT, le PTCI ou encore le TAFTA. Fumeux acronyme qui masque mal la volonté des dominants de transformer le monde à leur avantage. Et que prévoit-il ce grand marché transatlantique ? Eh bien d'enrôler les tribunaux au service des actionnaires, d'ériger le secret en vertu progressiste et de remettre la démocratie au bon soin des lobbyistes. La créativité cynique de ces gens est sans limite, mais le temps de la reddition des comptes est proche, alors je me marre.
Ben mon vieux, t'es en forme là. Hein. Après cette magistrale envolée politique, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Donc cette émission sera normalement rediffusée le mardi 17 juin de 14h à 14h30. Notre prochain rendez-vous aura lieu le 10 juillet à 15h. Une émission spéciale avec des scoops extraordinaires sur les dessous de la ville. Et donc au mois prochain, pour nous contacter, une seule adresse, accueil.attaque@attaque.org. Salut Mathieu.
Salut Hervé.
Salut Sidi, toujours aux manettes.
Ciao.
À bientôt. C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.